bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, de l'environnement à notre organisme, des pesticides aux produits désinfectants, ce savant cocktail chimique est-il en plus en train de polluer notre cerveau? Une question environnementale, scientifique, mais aussi bien sûr de santé publique. Aujourd'hui, à partir de 12h55, l'expertise plutôt alarmante d'une spécialiste mondiale des perturbateurs endocriniens, la biologiste Barbara Domenex, qui est notre invitée à l'occasion de la parution de son essai Enquête cocktail toxique chez Odile Jacob. Mais d'abord, après le pari de Zabou Breitman hier, la villa du Marseillais Robert Guédiguian en salle demain. Au fil de l'eau, le producteur et réalisateur de Marius et Jeannette et de Marie-Jo et ses deux amours nous emmène cette fois-ci, ou une fois encore, dans sa calanque pour une histoire de famille, la recomposition d'une fratrie, à retrouver tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Et dans La Villa, votre nouveau film, on retrouve le trio de Kilosa, Marius et Jeannette, ou encore Des neiges du Kilimandjaro, sans oublier votre avant-dernier film, Au fil d'Ariane, sorti en 2014. Ariane Ascaride, Jean-Pierre Daroussin, Gérard Meilland, et quelques faux nouveaux, dont Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin, ou encore Yann Trégouette, les derniers arrivés. Unité de lieu, la Calanque de Méjean, près de Marseille, qui abrite La Villa, menacée par la modernité. Une fratrie, Angèle, Joseph et Armand, ils se retrouvent au chevet de leur père, bande-annonce.
Ma petite sœur, ma toute petite sœur.
Je te présente Bérangère, ma trop jeune fiancée.
Enchantée.
Il est en haut dans sa chambre. On ne sait pas s'il nous reconnaît, mais si tu veux aller le voir.
Il y a un espoir de guérison ?
Non. Je tente avec ce resto de continuer dans l'esprit de papa, avec des petits prix pour des gens qui ont peu d'argent. Mais là, j'y arrive plus.
J'étais génial, tes pâtes.
Je ne fais que les recettes de notre père.
Les recettes de notre père qu'il avait piqué à notre mère. Il ne savait pas faire cuire un œuf avant qu'elle meure.
Comment tu as fait pour rester si loin de nous?
S'il n'y avait pas eu ce partage à régler, je ne serais pas revenu.
C'est un accident. Tu nous as traités comme des criminels. Tu sais même pas ce qui s'est passé.
On a retrouvé les restes d'un bateau. Probablement des migrants. Faites attention, hein, ils peuvent être dangereux.
Dangereux?
Oh, regarde!
Ah ouais, il est beau.
C'est horrible, tous ces bons souvenirs.
À Angèle.
Angèle.
Vous allez vendre vous aussi?
Je sais pas, on n'a pas encore parlé.
On les a trouvés dans la colline. C'est une boîte d'air escapée du bateau.
Qu'est-ce qu'on fait?
Bonjour Robert Guédiguian.
Bonjour.
Quand vous ouvrez les volets de votre chez-vous le matin sur le Vieux-Port, vous voyez quoi?
Notre-Dame de la Garde, qui me protège. Donc, ça c'est un peu un cliché marseillais, mais non, je vois la mer en tout cas. Et la mer avec l'horizon, et donc j'ai un rapport à l'horizon, j'ai un rapport à l'utopie, comme vous le savez, mais qui est sans cesse reculé, enfin je veux dire, qui recule sans arrêt, donc il faut toujours se rester debout, se battre, trouver des causes à défendre, en fait, pour ne pas s'ennuyer déjà, et puis pour rester en marche, pour utiliser un terme qu'on utilise beaucoup en ce moment, mais pas tout à fait dans le même sens. Mais c'est vrai que là, à nouveau, dans ce film, je crois que les personnages sont ont une main en avant, une main en arrière. Ils cherchent évidemment à continuer à être ce qu'ils ont été, tout en faisant une analyse peut-être critique, en disant « bon, ben, ça c'était peut-être pas très bien, ça en a réussi, ça en a échoué ». Mais ils cherchent surtout pour continuer, ils cherchent une nouvelle cause qui les dépasse, en fait, une nouvelle raison d'être, plus universelle que leur propre vie, en fait. Donc ils cherchent à rentrer dans l'histoire, si j'ose dire, hein, je veux dire, à travers leur œuvre, en tout cas, à continuer. Et c'est de la mer que va surgir la nouvelle cause, oui.
La mer, M.E.R. Et le film, si on reprend au début, commence comme un roman d'Hemingway, Le vieil homme et la mer. Il regarde au loin ce vieil homme, c'est Maurice. À quoi pense-t-il, lui, à ce moment-là?
Je crois qu'il pense à ce qui a disparu, mais aussi à ce qui n'a pas été tout à fait abouti dans ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il a ce mot un peu, c'est un peu énigmatique, hein, mais il dit « tant pis ». Il dit que ça, d'ailleurs, voilà. Mais, si vous voulez, ce que je me disais aussi, c'est que un film qui commence par tant pis, les choses ne peuvent que s'améliorer.
Exactement.
Tout au long du film.
Pas pour Maurice. Pour Maurice, les souvenirs remontent, en effet, et son cœur se brise. Ses trois enfants, dont Joseph, avec sa jeune compagne, se retrouvent alors au chevet de leur père. Il y a des décisions à prendre. Qui pour s'en occuper, vendre ou pas le resto et la maison, la question du partage qui arrive souvent dans ces moments-là. Armand, c'est le plus fidèle des fils, il est toujours resté. Angèle, elle n'est pas revenue depuis le drame. Elle a fait sa vie sur les planches, à Paris, en tournée. Le drame, on va en reparler. Autour d'une nappe à carreaux, dans le resto, en bas, il y a les idiots d'antan qui vont être discutés. Qu'en reste-t-il? Que fait-on de la mémoire de ceux qui nous ont précédés, et notamment de celle de Maurice, le père, qui va réunir cette fratrie? Stop ou encore? C'est un peu le dilemme que va se poser à cette fratrie, à ces deux frères et à cette sœur qui sont là, réunis autour de leur père.
Oui, ils ont essayé de, je crois qu'ils ont été éduqués dans une... Je cherche un mot pour, mais qui changerait un peu de ce qu'on utilise d'habitude. Je vais dire ça aujourd'hui. Je vais dire le partage, en fait, d'une idéologie du partage, carrément, d'une morale, en fait, du partage. Ils ont eu cette injonction paternelle, on pourrait dire. Voilà, on leur a dit qu'il fallait partager avec les autres. Voilà. Ils ont ça dans le sang, on pourrait dire, de manière tout à fait viscérale. Et ils vivent aujourd'hui dans une société où ce n'est pas trop, on va dire, c'est pas trop l'idéologie dominante, pour utiliser là aussi un mot un peu ancien.
Vous l'avez eu ce partage, Robert?
Je l'ai eu, mais je l'ai toujours. Je considère que si on partage pas, on est malheureux. Enfin, je crois que dans le partage, il y a du bonheur, une forme de bonheur. Je crois que, vous savez, il y a honte à être heureux parmi tant de misères. Enfin, c'est des phrases, on pourrait sortir des millions de citations de ce type-là. Ça, c'est Nietzsche, je crois. Mais je crois que la réussite individuelle, pour moi, contrairement à ce qu'on nous propose aujourd'hui toute la journée, sans arrêt, enfin, à tous les sons de clairaux, est pour moi impossible, en fait. Je crois qu'il peut y avoir de réussite que collective, en fait. Moi,
ça n'a pas fait dilemme chez vous,
jamais,
idée du partage en héritage.
Jamais, je l'ai pratiqué partout. Je veux dire que le cinéma me convient d'ailleurs comme activité, même artistique, me convient parfaitement parce que c'est une activité collective. Il y a des acteurs, évidemment, il y a des techniciens, qui sont des collaborateurs artistiques, on dit toujours techniciens, mais enfin, c'est des collaborateurs artistiques, donc le cinéma est quelque chose de collectif. J'ai fait de la production au cinéma dans une entreprise qui s'appelle Agathe Film Ex Nihilo, qui est une société collective aussi, donc je suis, comme mes personnages d'ailleurs, ce qui n'est pas un hasard évidemment, mais je suis viscéralement... pour le partage, traversé par cette idée. Je ne peux pas concevoir la vie autrement que ça.
Parce qu'elle est essentielle dans ce film, la villa, Robert Guédiguian, la figure du père, celle de Maurice, silencieux tout au long du film, à part ce tant pis, patriarche aimé, respecté, inspiré peut-être du vôtre, de père arménien, ouvrier, il était électromécanicien sur les chantiers navals. Vous avez souvent loué son courage à lui. Quelle conception se faisait-il de la vie? Quelle philosophie était la sienne?
Mais je crois celle-ci, effectivement, d'ouvrir la porte, de partager, de dire quand il y en a pour 5, il y en a pour 6, d'être toujours dans ce rapport-là, c'est-à-dire jamais dans un rapport d'accumulation personnelle, de morale bourgeoise, ou même petite bourgeoise, jamais dans l'acquisition, pas vouloir posséder quelque chose, pas vouloir avoir une maison un petit peu plus grande, une voiture plus belle. Il était hors du monde de la consommation d'aujourd'hui, je crois, vraiment. C'était pas des consommateurs. Il fallait effectivement travailler, vivre, élever ses enfants, avoir un toit, et bien sûr ouvrir la porte à ceux qui avaient moins pour partager ce qu'on avait.
Mais il y avait quand même des rêves plus grands que le 30 mètres carrés dans lequel vous avez grandi. Quel était le rêve en béton armé de cette génération d'après-guerre? Ce rêve coulé peut-être dans la pierre de cette villa à laquelle vous avez donné le titre de votre film. C'était quoi? Construire une société vraiment égalitaire? Il y avait cette idée-là?
Bien sûr. C'est-à-dire que on sait très bien qu'il y a une inégalité de fait, bien entendu. Mais à cette égalité de fait, on peut répondre par une justice quand même pour tous, une justice mieux appliquée pour les uns et pour les autres. Et effectivement, je crois, pour pas laisser pour qu'il n'y ait pas de laisser pour compte, pour ne pas laisser les gens sans rien, laisser les gens abandonnés sur le bord de la route. Je crois que c'est le défaut des sociétés modernes et des sociétés libérales. Donc, à ce moment-là, c'était très contesté. Aujourd'hui, ça allait moins. Je continue à être dans la contestation de ce modèle-là. Je veux dire, la société libérale fonctionne bien pour les forts. C'est très difficile pour les faibles.
Vous avez le cœur à gauche, Robert Guédiguian. Vous n'êtes pas le seul.
La tête aussi.
Qu'est-ce que c'est laid, ces nouvelles matières? Ces petits poteaux, là. Ces couleurs.
Moi, j'aime bien ce bleu.
Faudrait créer une commission nationale de la couleur.
Leurs murs leur appartiennent. C'est le principe de la propriété privée.
C'est leurs murs, mais c'est nous qui les voyons.
Bah t'as qu'à fermer les yeux.
Fermer ma gueule aussi, c'est ça?
Tu lis dans mes pensées?
Si tu veux me quitter, pourquoi t'es venu avec moi?
Je voulais revoir ton père une dernière fois. Je l'aime bien.
Dans le fond, t'aimes le peuple. Tête gauche. La tête à droite et le cœur à gauche. Comme tout le monde. Pas très original.
Pas très original. On retrouve dans ce film, Robert Guédiguian, vos fondamentaux, Marseille et le quartier de l'Estac, depuis votre premier film, Dernier été en 81. Fidélité aussi à la classe ouvrière, un engagement social ou populaire, et le clan, la famille. Sauf que depuis 2006, vous avez aussi fait des incartades ou juste des pas de côté, pris le large, avec notamment Le voyage en Arménie, Le promeneur du Champ de Mars, un film sur François Mitterrand, avec L'armée du crime aussi, sur le Mont Valérien. Et peut-être un peu comme Angèle, la sœur de cette fratrie, la sœur de la famille qui est partie et qui revient à cette occasion. On a envie de vous demander si vous partez généralement pour mieux revenir de là où vous venez.
Oui, bien sûr. Mais je crois, vous savez, ça c'est même le mythe fondateur de la Méditerranée, c'est Ulysse, hein, qui a fait un beau voyage, mais qui revient à finir ses jours avec ses amis. Il y a quelque chose de... Forcément, on revient sur le lieu des origines, en fait, et on s'aperçoit, évidemment, toujours, quand on a fait des très très graves voyages, on s'aperçoit que la vie est partout la même, que le monde est le même partout, et que les choses se présentent de la même manière, en fait. Donc, les tragédies, en fait, existentielles, et les bonheurs, d'ailleurs, aussi existentiels, sont à la forme près, à la couleur près, sont les mêmes partout. Et c'est ça aussi qui m'importe d'essayer de travailler à partir d'un lieu particulier, de bien montrer ça, en fait, de montrer des choses tout à fait universelles, d'être dans quelque chose de, d'être une espèce d'évidence, de vie, quoi. C'est ce que j'essaie aussi de raconter, de montrer de la complexité, mais la complexité derrière une quotidienneté, derrière des gens qui ont leur poids personnel, qui ont leur poids propre et qui se laissent comme ça, qui vivent, dans un récit un petit peu clair et transparent, comme c'est le cas chez des gens comme Tchekhov au théâtre ou comme Ozu au cinéma, par exemple. Ça fait partie des gens que des cinéastes ou des hommes de théâtre que j'aime beaucoup pour ça, pour cette raison-là.
Puisque vous parlez de théâtre, Robert Guédiguian, ici, la Calanque est comme un décor de théâtre, hein, et en coulisses, derrière la scène qu'est la Calanque, passe un train, celui qui emmène ailleurs, celui qui désenclave aussi les vies, pour le meilleur et pour le pire, celui qui peut aussi ramener les enfants partis sur leur lieu d'origine. Mais dans la villa, c'est pas Ulysse directement que vous convoquez, c'est Claudel. Pourquoi lui ?
Oui, ça c'est autre chose. C'est une espèce, je voulais insister sur le fait que ce jeune pêcheur qui effectivement est fasciné par le théâtre, à travers le personnage d'Angèle d'ailleurs, dont il est amoureux depuis qu'il est gosse, en fait, parce qu'il a vu jouer quand il est gosse, il est plus jeune qu'elle, beaucoup plus jeune. Et ce personnage, effectivement, a toujours voulu faire du théâtre, il est allé donc chercher dans les grands auteurs classiques, pas forcément dans des auteurs d'ailleurs liés à sa condition de pêcheur, pas forcément dans des auteurs, il n'est pas allé chercher des auteurs par exemple comme Brecht ou comme, je sais pas, ou comme Pasolini ou comme Fassbinder, des auteurs plus, j'allais dire, plus révolutionnaires. Non, il est allé chercher ce que souvent, je veux dire, milieu populaire ont fait, et à juste titre, il est allé chercher dans la culture la plus classique, dans la langue d'ailleurs la plus pure, et Claudel est quand même un grand magicien de la langue. Donc c'est insolite, improbable, et à la fois possible. Et je crois que le cinéma doit être aussi ça, doit transformer des choses improbables en choses possibles. Et puis il va réciter du Claudel dans les banlieues, dit-il. Hein, je veux dire, il ne reste pas dans cette calanque, c'est-à-dire qu'il va faire de l'éducation populaire en plus avec ces textes-là. Donc il va apprendre déjà, imaginez aujourd'hui aller dans une cité, apprendre déjà à parler comme Claudel. Moi je trouve que c'est un très très beau programme. Hein.
Qu'est-ce qu'il récite de Claudel ?
Là, dans ce film-là, c'est L'échange.
Vous le connaissez ?
Le texte? Oui. Non, je pourrais pas vous le redire. En plus, bon, moi, j'ai un inconvénient, car ce type de texte, hein, je dirais que mon accent, c'est pas tout à fait élégant de réciter du Claudel. Bon. Encore que peut-être quelqu'un comme Vitesse, qui était professeur d'Ariane et qui travaillait ça sans arrêt, aurait peut-être dit que mon articulation, quand même, ou que le fait d'appuyer, tu vois, sur les voyelles, Ça pourrait fonctionner avec Claudel.
Je trouve qu'on devrait vous trouver un extrait de Claudel. Ça doit être assez mythique. Ariane, c'est Ariane Ascaride qui joue donc Angèle dans le film. Robert Guédiguian vous rapproche souvent, et vous vous rapprochez peut-être d'eux, vous vous en inspirez de Brecht que vous venez de citer. Dans le film, d'ailleurs, il y a une évocation de la bonne âme du Sechouan. Et puis de Tchekhov avec la Cerizet, ici, pour la villa. Angèle, elle est un peu Lioubov hein, dans l'histoire. Oui. C'est celle qui revient après un long exil. Comment concilier les trois temps de nos vies, passé, présent, futur? C'est aussi ce qu'interroge votre film, Robert Guédiguian. Et vous, comment vous conjuguez votre vie? À quel temps?
Non, mais je crois absolument, c'est très juste. Je crois que c'est on pourrait presque dire, c'est la définition de la culture. La culture travaille avec le temps. Et au moins sur trois générations, on va dire, au moins sur le présent, c'est la génération qui suit, la génération qui précède. Et je crois qu'effectivement, s'il y a une coupure forte entre effectivement une projection vers l'avenir et ce qu'on a appris du passé, je crois qu'on vit mal. Je crois que ça s'appelle être désorienté, ça s'appelle être angoissé. Et ça aussi, je pense que c'est le propre de la société contemporaine, de vivre uniquement dans le présent. Je crois que c'est un défaut du monde contemporain auquel il faudrait remédier. Mais effectivement, on ne peut pas sans arrêt non plus, comment dire, ne pas travailler sur l'histoire, sur la littérature, sur tout effectivement ce qui nous raconte ce qui se passait avant ou la génération de nos pères. Il faut continuer à nous la raconter, cette histoire-là, parce que sinon on ne sait pas où aller. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va.
Et c'est aussi ça le temps du cinéma?
C'est le temps du cinéma, oui, je crois. Et le cinéma peut aider à ça beaucoup. Et en tous les cas, c'est une... le cinéma est assez peut-être assez fort pour raconter ça. Même si on n'a pas, comme j'ai moi, quelques archives de mes acteurs, donc j'ai quand même dans ce film j'ai la possibilité d'utiliser des images que j'avais déjà tournées avec les mêmes acteurs.
Non, mais ça, il faut raconter quand même dans que vous avez utilisé effectivement dans ce film des images de l'un de vos premiers films de Kilosa. Oui. Et c'est assez étonnant parce qu'on les retrouve tous. Là, le fameux trio, ils ont combien d'années de moins? 30 ans de moins.
30 ans de moins.
Et on les voit au même endroit.
Voilà, j'avais tourné une séquence dans cette calanque. Donc évidemment, quand on a commencé à écrire le film et quand on a bien vu que l'un des motifs du film, évidemment, était le vieillissement, était la question du temps qui passe, etc. Évidemment, j'ai tout de suite dit qu'il serait beau, en fait, qu'il serait efficace d'utiliser cet extrait. Et c'est là, il est tout à fait saisissant, quoi. On n'imagine pas une seconde, et on le fait rentrer comme ça de manière extrêmement cut, comme on dit, enfin, violente, sans l'annoncer du tout, effectivement, dans le film. Et c'était un choc pour tous les spectateurs qui l'ont vu jusqu'à présent, quoi. Je crois que c'est même un choc parce qu'ils se voient eux-mêmes. Je crois que ça leur projette une image d'eux aussi, du public, qui évidemment se remémore comment ils étaient eux-mêmes, en fait, je veux dire, 30 ans plus tôt.
Mais à travers ça, on voit aussi comment vos films se répondent dans le temps, un peu comme l'écho des prénoms qui sont criés sous le viaduc dans le film. Il y a dans la villa un côté presque un peu... Elle est testamentaire, vous n'allez peut-être pas aimer ça, mais vous avez le sentiment de refermer une parenthèse avec ce film?
Non. J'ai répondu une fois à cette question, qu'en fait, tous mes films étaient testamentaires, si je puis dire, mais même le premier. Parce qu'en fait, au sens où dans tous mes films, en fait, je raconte l'état dans lequel je suis. Donc, c'est forcément, c'est toujours quelque chose de bilan, en fait, qui est de l'ordre du bilan, de ce qui est, comme je disais tout à l'heure, réussi ou pas, de ce qui est. De comment je me projette et de comment effectivement j'analyse le temps présent. Donc il y a tout, je n'ai jamais fait que des films testamentaires, je pourrais dire, c'est une formule. Mais...
Alors qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on préserve? Vous êtes aussi, vous dirigez aussi la Cinémathèque de Toulouse. Écoutez à ce propos ce qu'en dit le fondateur ou l'un des fondateurs de la Cinémathèque de Paris en 1936, Henri Langlois.
À l'origine, nous avions pensé à sauver les chefs-d'œuvre, puis, c'est-à-dire les films les plus réputés comme tels, les plus importants de l'histoire du cinéma. Nous étions modestes. Mais très vite, nous sommes aperçus qu'il y avait les chefs-d'œuvre qui n'étaient plus des chefs-d'œuvre, il y avait des films qui passaient pour des navets et qui étaient des chefs-d'œuvre, donc on a commencé à se dire, attention, il faut penser à l'œuvre totale des metteurs en scène. Puis de là, on a commencé à s'apercevoir que même des films qui sont des navets, même des films de mauvais metteurs en scène, sont des documents extraordinaires pour l'histoire des mœurs, ou pour l'histoire même de la pensée humaine, ou pour l'histoire de la psychologie des foules. Par conséquent, on en est arrivé à l'idée qu'il fallait tout garder. Évidemment, qui trop embrasse mal étreint, on ne peut pas se permettre de conserver tout, d'exiger tout, donc on essaye de conserver tout ce qui existe en France et en plus les choses les plus marquantes qui ont pu marquer dans l'histoire du cinéma international.
Alors voilà, ça c'est des questions que vous devez vous poser vous à la Cinémathèque de Toulouse. D'ailleurs, vous voulez l'agrandir en ce moment, cette Cinémathèque, histoire de pouvoir en stocker un peu plus. Mais il y a quand même des choix à faire, j'imagine.
C'est extrêmement difficile, hein, c'est un souci majeur. Quoi, parce qu'effectivement, on ne peut pas juger les films. Je veux dire, face à la Cinémathèque et face à la conservation, comme dit Langlois, qui est un des fondateurs de celle de Paris, on s'aperçoit très vite que tous les films sont égaux. Voilà, face à la conservation, je dis bien. Bon. Donc,
pas dans votre jugement.
Pour l'instant, on ne. Pour
on
l'instant,
ne jette rien.
Non, on n'a jamais rien jeté. Je pense qu'aucune cinémathèque, à ce jour en tout cas, n'a été contrainte à supprimer, à virer, quoi, à mettre au pilon quelques copies ou quelques. Voilà. Donc, on ne fait pas ça. Bien sûr que quand je vois les bobines de films alignées à la Cinémathèque de Toulouse, il y a des films que je n'aime pas beaucoup.
C'est quoi le rôle d'une cinémathèque aujourd'hui, Robert Guédiguian ? C'est un peu la question qu'on s'est posée très récemment, dans ce moment que nous sommes en train de vivre avec la Cinémathèque de Paris et le choix de Frédéric Bonneau de présenter d'abord une rétrospective, celle de Roman Polanski, puis une rétrospective Brissot qui finalement a été annulée, décommandée. Vous l'auriez fait, vous, ces deux rétrospectives coup sur coup ? Vous auriez choisi aussi de coller peut-être un peu aussi à l'époque, de ne pas être sourd au cri du moment ?
Non, je pense que je connais très bien Frédéric Bonneau, hein, c'est très copain, on travaille ensemble souvent. Je crois que tout simplement la programmation d'une cinémathèque se fait très très longtemps à l'avance. Moi, je peux vous dire ce qu'il y aura à la cinémathèque en septembre prochain. C'est l'actualité qui a quand même a fait ça, a rapproché même ces deux cinéastes, je veux dire, qui d'ailleurs n'ont pas grand-chose à se dire par ailleurs. D'ailleurs, esthétique, on va dire, voilà. Mais donc, c'est vraiment l'actualité. On peut pas mettre ça sur le dos de Bonneau ou de Gavras.
Non, mais vous dites qu'il faut distinguer les films et les hommes. Il faut distinguer le rôle d'une cinémathèque dans ce qu'elle a de patrimonial.
Il faut montrer les films, bien entendu. Les cinémathèques sont là pour montrer les films et toutes les œuvres. Je veux dire, on peut pas ne pas... La cinémathèque n'est pas un tribunal. On peut pas juger ce que font les auteurs par ailleurs. D'ailleurs, que ce soit dans cet ordre... dans l'ordre comme ça des mœurs, ou même dans l'ordre politique, ce serait terrible. Mais c'est comme si on disait, est-ce qu'il faut lire Louis-Ferdinand Céline aujourd'hui ? Bon, bien sûr qu'il faut lire Louis-Ferdinand Céline, il faut même absolument lire Céline.
Il ne faut peut-être pas aujourd'hui appeler...
Parce qu'on n'y apprend beaucoup de choses, peut-être on y apprend même à écrire, donc ce n'est pas trop mal. Mais ça compte, mais par ailleurs, on peut condamner à 100% ce qu'a fait Céline, et le lire en même temps, c'est ce que je fais.
Donc vous n'auriez pas annulé la rétrospective Brissot ?
Non.
France Culture avec le réalisateur Robert Guédiguian. On est ensemble jusqu'à 13h30.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Avez-vous toujours la même haine des bourgeois et de la bourgeoisie ?
Il ne s'agit pas de haine. Il s'agit de quelque chose de plus et de moins en même temps. Malheureusement, à ce point, je dois renoncer à cette espèce de haine, parce qu'en Italie, tous les gens sont devenus des bourgeois.
Et quand ce sont les bourgeois qui font le succès d'un de vos films, est-ce que ça vous attriste ?
Il n'arrive jamais que ce soit des bourgeois à décréter le succès d'un film. Ce sont les élites bourgeoises, celles auxquelles j'appartiens, et la masse du public. C'est la masse du public.
Pourquoi ne militez-vous plus aujourd'hui ?
Comment l'entendez-vous ?
Vous n'êtes plus un militant politique.
Je le suis plus que jamais. Je n'ai jamais été inscrit à un parti, je suis un indépendant de gauche marxiste, mais je continue à militer plus que jamais.
Est-ce que vous avez parfois la nostalgie de l'époque où les gens vous insultaient dans la rue ?
On m'insulte encore aujourd'hui.
Et ça vous cause un certain plaisir ?
Je ne le refuse pas, parce que je ne suis pas un moralisateur.
Quelle est la qualification professionnelle que vous préférez ?
Dans le passeport, j'écris simplement « écrivain ».
Pasolini, magnifique. Pour un réalisateur comme vous, Robert Guédiguian, qui se dit sous influence pasolinienne. Vous n'avez plus votre carte nulle part, mais il y a encore des causes qui vous tiennent particulièrement à cœur aujourd'hui.
Oui, enfin, partout il y a de la misère, je dirais. Il y a une cause à défendre, mais plus directement aujourd'hui, bien entendu, je crois qu'on ne peut pas, je dis même qu'on ne peut pas faire un film sans parler de la question des réfugiés, en fait.
Et elle est je présente, d'ailleurs, dans votre film La Villa.
Bien sûr. Mais je l'ai fait, évidemment, parce que, pour cette raison-là, parce que j'ai pensé que c'était pas possible, en fait, de ne pas parler de ça. de cette question, qui est la question, pour moi, aujourd'hui, centrale de l'humanité dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire le partage dont on parlait tout à l'heure, le partage ne peut plus se conceptualiser à partir d'une société microscopique, en fait, ou d'une unité, de la France, par exemple, de l'Europe, ou de, je crois que on est entré dans ce 21e siècle, dans un monde qui est, le monde est partout. Le monde est partout, et on a enfin l'idée qu'on est dans un seul monde, en fait. Donc, la question du partage ne peut se poser qu'à cette échelle-là. J'allais dire, c'est peut-être même un des avantages de ce qu'on a appelé la mondialisation ou la globalisation, en fait. Ça nous a aussi appris ça. Ça nous l'a appris, mais du coup, effectivement, les réfugiés, les misères qui sont très loin de nous, les guerres qui sont très loin de nous viennent aussi chez nous. Voilà. On ne peut plus garder comme ça, très éloigné des questions qui nous semblaient, il y a un siècle, qu'on pouvait encore ignorer. Je veux dire, voilà, les médias n'en parlaient pas, les médias n'existaient pas, et puis on n'avait pas ce rapport direct.
Et le trio du film va donc se retrouver dans la villa en aidant trois enfants échoués là en bateau, ce qui ramène à votre définition du cinéma engagé ou de l'engagement tout court, ne pas concevoir le monde sans se préoccuper du sort de son voisin, comme une urgence personnelle que vous avez eu cette fois encore à transposer cette question-là, cet engagement à l'écran, ce qui interroge juste, et on terminera là-dessus, sur la question du lieu. Vous mêlez dans la villa géographie intime et géographie du lieu, de ce Marseille, de cette calanque qui a ici une portée universelle. On est tous un peu des déracinés aujourd'hui, Robert Guédiguian, mais il ne faut pas voir votre film comme un appel au retour ou un appel aux origines dans un sens étroit et refermé. Comment ne pas basculer d'ailleurs dans ce discours des racines, des identités figées? Vous vous dites, à travers cette métaphore, cette présence des trois enfants arrivés là, il y a aussi une porte vers l'avenir qui s'ouvre.
Oui, c'est plus que ça va sauver, en fait. Ça va sauver, en fait. Je crois que si nos sociétés ne peuvent être sauvées que, et on peut mesurer leur qualité à la manière dont nous nous occuperons des réfugiés dans leur essence même, hein, c'est-à-dire dans leur essence même, c'est-à-dire dans la recherche d'un bol de soupe, d'une couverture et d'un toit pour passer la nuit. C'est pour ça, évidemment, que je mets trois enfants qui sont absolument innocents et qui représentent, pour moi, le cristal, presque, je pourrais dire, de réfugiés en valeur absolue, comme voilà. Et c'est vrai que je pense que là, ça peut nous aider à exister. Je crois que sans ces mélanges-là, les sociétés meurent. Donc je suis certainement pas pour le repli, pour la fermeture. Je pense qu'au contraire, sans ouverture, on s'étouffe.
La Villa, le nouveau film de Robert Guédiguian, très beau film à voir, qui sort en salle demain avec votre trio de tête, Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin et Gérard Mélan, et bien d'autres, Anaïs de Moustier, Robinson Stévenin, Yann Trégouet et Maurice aussi, hein, dans le rôle du père, oui. Fred Ulysse, j'en ai oublié probablement quelques-uns, mais c'est un grand film avec une galaxie d'acteurs à vous. On n'a pas eu le temps de parler de cette famille, de votre clan, de ceux qui vous entourent depuis plus de 30 ans que vous faites des film Robert Guédiguian. Merci beaucoup à vous. La Grande Table continue, on se retrouve pour la deuxième partie à partir de 12h55 après le journal d'Antoine Mercier.